Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres, mes lèzes tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit enchanteur avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 30 juillet 2026. Fin de la consultation publique concernant le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Qu'est-ce que ce classement d'espèces? Que signifie-t-il et comment est-il décidé? Y a-t-il des études scientifiques qui guident ces choix de classification d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts? D'autres pays que la France ont-ils des façons de fonctionner différentes? Est-ce que cela est efficace? Le 30 juillet prochain se clôturera la consultation publique, lien sur le podcast de l'épisode, pour le classement des ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Belette, fouine, renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, jet des chênes et étourneau sans sonnet sont depuis plusieurs décennies classés espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Pour rappel, en France, chaque département recueille les déclarations officielles de dommages causés à la faune sauvage, aux exploitations agricoles et d'élevage, aux personnes et aux autres biens au moyen de formulaires types précisant les espèces concernées et une estimation monétaire du préjudice en euros. Les agriculteurs, producteurs agricoles et particuliers peuvent déposer une déclaration de dommage, souvent en ligne, en indiquant le type de dommage, en proposant une estimation du coût économique et en identifiant l'espèce responsable. Il n'existe ni formulaire standardisé ni contrôle organisé de ces déclarations qui sont conservées et compilées par les administrations départementales, puis transmises à l'administration nationale. À partir de ces déclarations, chaque département établit un rapport annuel récapitulant le coût des dommages attribués à chaque espèce de vertébrés nuisibles, des espèces autant de renards que d'oiseaux, en euros, ainsi que le nombre d'individus abattus par espèce pour une saison de chasse du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante. Les piégeurs agréés doivent tenir un registre quotidien de leur prise en précisant par commune l'espèce et le nombre d'animaux de chaque espèce capturée. Il en va de même pour les chasseurs exerçant leur activité hors saison de chasse qui doivent obtenir une autorisation spéciale et déclarer leur prise. La transmission de ces données à l'administration départementale est obligatoire. Toutes ces données sont ensuite centralisées par le ministère de l'Environnement. Depuis plusieurs années, et en constatant que les plaintes du milieu rural ne diminuaient pas malgré l'augmentation des abattages, des études scientifiques s'appuyant sur ces chiffres déclarés et la connaissance de ces espèces s'intéressent aux conséquences positives ou négatives de la destruction de ces espèces lors des campagnes de régulation de nos fameuses ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ainsi, diverses études ont vu le jour. Dans une expertise datant de juin 2023, l'Agence de sécurité sanitaire avait estimé que le classement du renard comme nuisible n'était pas justifié par un motif sanitaire lié aux possibles transmissions de zoonoses. En septembre, la même année, une synthèse de la littérature scientifique effectuée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité avait également montré l'inefficacité de la destruction des nuisibles pour réduire les dégâts sur la santé, sur les troupeaux, sur la faune sauvage agricole, mais elle n'avait en revanche pas évalué le bilan économique d'une telle approche. Ce n'est que le 9 mars dernier qu'une étude menée par le Muséum d'Histoire Naturelle a évalué du point de vue écologique et économique l'efficacité de la lutte contre les animaux dits nuisibles en exploitant 7 années de données de 2015 à 2022, portant sur les déclarations de dégâts et sur le nombre de nuisibles tués. C'est le sujet de l'épisode Feuille de chou numéro 64. Cette étude conclut que la destruction de quelque 1,7 million de renards et mustélidés, fouines martes, et corvidés, pies, corbeaux et corneilles, ne présente pas de lien avec l'évolution des coûts des dommages, pertes agricoles et zoonoses, donc les maladies transmises par les animaux. De même que l'arrêt de cette destruction n'augmente pas les dommages constatés. En outre, les scientifiques établissent que ce contrôle des espèces n'a pas d'incidence sur la régulation des corvidés, mais surtout qu'il présente un coût entre 103 et 123 millions d'euros, 8 fois supérieur à celui des dommages occasionnés, 8 à 23 millions d'euros. Ainsi, les chercheurs avancent qu'étant donné que le contrôle létal est inefficace, économiquement injustifiable et éthiquement discutable, il est recommandé que la réduction des coûts économiques des dommages se concentre d'urgence sur la réduction et la prévention de ces dommages, ce qui ne requiert pas de contrôle létal. Actuellement, cette politique d'abattage repose sur un arrêté de 3 ans, dont la version en vigueur a expiré le 1er juillet 2026. Cet arrêté est ajusté à l'échelle de chaque département et vise 9 espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ézodes. Belette, fouine, marthe. Renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, jet des chênes et tourneau sans sonnet. Il permet de détruire ces espèces par tir ou par piégeage, voire par déterrage pour le renard, y compris hors période de chasse. Quelques restrictions existent pour certaines espèces dans des départements déterminés. On parle quand même d'un droit de destruction que les propriétaires, possesseurs et fermiers peuvent exercer ou déléguer par écrit. Les modalités de destruction diffèrent selon les espèces. Elles sont précisées par l'arrêté ministériel correspondant. Par exemple, le renard peut être piégé et déterré toute l'année et en tout lieu. Il peut être détruit par tir en tout lieu jusqu'au 31 mars et au-delà du 31 mars sur les terrains consacrés à l'élevage avicole, l'élevage des oiseaux, par exemple des poules. La destruction à tir est effectuée par des chasseurs ayant validé leur permis de chasse. La pose de piège est réservée aux personnes possédant un agrément de piégeage, sauf pour les pièges de catégorie 1, les pièges cages, qui ne nécessitent pas d'agrément. Le rapport de l'IGEDD, l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable, avait relevé qu'aucun autre pays européen étudié n'avait mis en place de dispositif fondé sur la destruction comme l'avait fait la France. Dans ces pays, la mise en œuvre opérationnelle s'appuie sur 3 piliers : éviter, limiter ou indemniser les dégâts, et est déclinée au plus près du terrain suivant 3 principes : la proportionnalité, la responsabilité et la gestion différenciée. Par conséquent, cette dernière préconisait de supprimer le dispositif d'arrêté triennal à son échéance en août 2026 et d'en expérimenter un autre fondé sur une gestion collégiale sur des espèces cibles dans quelques départements. Car oui, ces espèces ont tout un rôle à jouer dans nos écosystèmes, un rôle qui se révèle bien souvent comme fondateur afin d'éviter qu'une espèce prenne le dessus sur d'autres ou bien que les maladies se propagent à grande vitesse. Prenons par exemple le jet des chênes. Ce petit oiseau de la taille d'un moineau, aux plumes bleutées sur son plumage noir ébène, il possède un rôle essentiel dans le fonctionnement des forêts. Il est capable de stocker jusqu'à 9 glands dans son jabot et de les transporter sur plusieurs kilomètres. Le jet joue donc un rôle fondamental de disperseur de semences qu'il amasse pour les retrouver en partie en hiver. Au titre des services écosystémiques qu'il rend, il est appelé « ami des forestiers » par l'Office national des forêts. Quant aux corvidés et à l'étourneau, ces derniers consomment de grandes quantités d'insectes, de larves, de vers blancs et de limaces qui ravagent les cultures. Parlons aussi du régime alimentaire du renard et des mustélidés, belettes, fouines et martes, qui est majoritairement composé de petits rongeurs, campagnols, mulots, musaraignes, qui endommagent les cultures. En régulant ces rongeurs, les renards rendent ce que l'on nomme un service écosystémique à tout un pan de l'agriculture. Dans la nature, le prédateur dépend de ses proies. Il ne peut pas les faire disparaître sauf à se condamner lui-même. C'est ce qu'on appelle en écologie scientifique le modèle Lotka-Volterra. Cela signifie que la ressource du milieu, ici le nombre de rongeurs, est une limite que si le prédateur l'atteint, alors ses propres effectifs vont diminuer, moins de prédateurs, et ainsi une régénération de la ressource de rongeurs lui permettra de continuer à perdurer dans ce milieu. Au niveau planétaire, en ville et à la campagne, les rongeurs sont tellement liés au nombre d'humains, à leurs déchets et à l'augmentation des températures que leur nombre explose littéralement. Prenons juste l'exemple de la capitale avec plus 72% d'augmentation des effectifs de rats en 6 ans. À la campagne, on remarque qu'une nette résistance aux produits tueurs de rongeurs est en train de s'installer, mettant en péril plusieurs cultures qui vont se faire attaquer par ces rongeurs. Le statut juridique des ZOD est propre à la réglementation française. Il n'a pas d'équivalent ailleurs. Aucun pays ne retient le principe d'une destruction systématique d'une espèce en prévention des dégâts qu'elle pourrait occasionner ou même en cas de dégâts. C'est la conclusion d'un rapport officiel de l'Inspection générale de l'environnement, rendu en décembre 2024, qui a étudié et comparé la réglementation de 5 pays européens, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, plus le Royaume-Uni et les USA. Ce rapport souligne que le statut des ZOD n'est fondé sur aucune obligation européenne spécifique. Il explique que l'action correctrice devrait en priorité concerner le ou les individus responsables du préjudice et non entraîner la destruction sans discernement de toute la population de renards ou de belettes se trouvant à proximité du dégât causé. Ces quelques individus ne représentent pas la population et les réguler, eux, sera beaucoup plus impactant que réguler la population dans son entièreté. Dans les autres pays, la gestion des dommages repose en premier lieu sur des mesures de protection. Si celles-ci s'avéraient insuffisantes, l'éloignement et l'indemnisation viennent en second lieu. En dernier recours et au cas par cas, la mise à mort est employée sous certaines conditions. Le rapport pointe aussi une absurdité de la réglementation française. C'est la seule qui considère que la prédation d'une espèce sauvage sur une espèce gibier, un pigeon ramier par exemple, constitue un dégât. Les autres pays ne considèrent comme un dommage que le préjudice à des intérêts individuels agricoles ou sylvicoles.
Le printemps n'était pas loin, et pourtant j'étais inquiète pour mon renard. On avait lancé dans la région une grande campagne pour se débarrasser de lui. Poison, piège, fusil, tous réutilisés. Certains hommes les trouvaient nuisibles. Moi je les trouvais beaux. Fascinant, sauvage, indispensable. Mais mon avis comptait pas.
Ah si, tu peux t'exprimer si tu le souhaites. Au lien de cet épisode ou en cherchant en consultation publique et ZOD avant le 30 juillet. Que dirait La Fontaine de tout cela? Lui qui s'entêtait à utiliser ces figures de la nature que nous côtoyons au quotidien pour en tirer des principes moraux. Sa version moderne nous rend visite un court instant, tendons la feuille à l'une de ses plus grandes réussites, le corbeau et le renard.
Maître corbeau, sur un arbre perché, tenant son bec, un putain de camembert, maître renard, par l'odeur alléchée, lui tient à peu près ce langage.
Hey, bonjour monsieur les corbeaux. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ravage se rapporte à votre putain de plumage. Vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit:
Mon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.
Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bisous.
Le penseur de l'époque n'est plus. Désormais, d'autres voix s'élèvent pour interroger notre rapport au bec et au croc. Ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, Alessandro Pignocci s'est lancé dans la bande dessinée avec son blog Puntish. Son premier roman graphique, Anent, Nouvelles des Indiens Jivaros, raconte ses découvertes et ses déconvenues dans la jungle amazonienne sur les traces de l'anthropologue Philippe Descola. Son petit traité d'écologie sauvage décrit un monde où l'animisme des Indiens d'Amazonie est devenu la pensée dominante. La cosmologie du futur poursuit cette réflexion en se débarrassant de notre encombrant concept moderne de nature. Son dernier ouvrage, Faux manifeste pour une vraie écologie politique, sortira en octobre prochain et vise avec humour à interroger les enjeux écologiques à la veille d'une présidentielle des plus attendues. Ils en disent quoi, les jets des chaînes ? Pourront-ils encore contribuer à faire voyager les graines des chaînes de contrées éloignées vers de plus accueillants horizons ? En un battement d'ailes, en un coup de fusil et un tir de flèche, en un bulletin de vote. C'est une forêt aux mille visages qui prendra racine.
Pata 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 pata, qui donc est passé par là? Pata 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 pata, mon petit doigt me le dira. Patatras sur le chemin, le lapin saute à pieds joints. Le hérisson qui pique-pique, croise les mains. C'est trois brindilles pour l'oiseau, c'est la trace du corbeau. Le sanglier sans chaussettes a creusé quatre fossettes. Patapaté, pas à pas, qui donc est passé par là? Patapaté, pas à pas, mon petit doigt me le dira.
Tu y as pêché où? Baobab, acajou.
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.